Je me souviens, je me rappelle.
Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditrices et auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Joël Garraud. Et, mais Joël, je vais vous demander de vous présenter en deux mots, ou un peu plus.
Joël Garraud, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je suis à la retraite maintenant.
Oui.
Voilà, donc...
Vous avez eu une vie active ?
Ah oui, j'ai eu une vie active, ouais. J'ai été d'abord éducatrice au niveau professionnel. J'ai d'abord été éducatrice. Et puis après, je suis rentrée dans l'éducation nationale côté professionnel. Voilà, pendant de nombreuses années dans la région et puis après sur Bourg. Après, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une SECPA, là, dans le collège Victoire d'Aubier, anciennement Croix-Blanche. Voilà, et puis je suis maman de deux filles.
Voilà. Bon, ben voilà, l'émission est terminée. Non, je plaisante.
Bon. je me souviens de ça, au moins.
Très bien. Joël, vous avez eu 15 ans.
J'ai eu 15 ans, oui.
Et il s'est passé des choses qui ont changé votre point de vue ou qui vous ont permis de le former.
Ah ouais.
Vous m'avez parlé d'un film de Louis Malle, pardon.
Oui.
Ça se passe en Inde et ça se passe dans la ville de Calcutta.
Ouais, c'est le nom d'ailleurs du film de Louis Malle, Calcutta.
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous êtes allé au cinéma?
J'ai la chance d'être dans une famille où je pouvais faire, je pouvais aller au cinéma toute seule à 15 ans.
Ce qui n'est pas forcément le cas.
Ce qui n'est pas forcément le cas maintenant non plus. Donc merci les parents. Et voilà, je ne me souviens plus comment ça se fait que je suis rentrée dans ce cinéma de Villeurbanne, CNP de Villeurbanne. Et donc, j'ai vu ce qui se passait dans un pays qui était bien loin et bien bien différent de notre pays. À 15 ans, on connaît pas grand-chose, en fait. On connaît la vie autour de nous, de notre communauté, de nos parents, de notre famille, mais on connaît pas bien les autres. Et là, ça a été une sacrée découverte, oui.
Une sacrée découverte. Alors, sans doute que vous avez vu des images marquantes, enfin, qui vous ont sorti de votre vie à vous.
Ah oui. Alors déjà le nombre de personnes. Le nombre de cette foule, ça grouille de partout, ça grouille sur les trottoirs, les gens sont habillés différemment et puis on comprend qu'ils ne se mélangent pas, c'est les castes. On voit des gens qui sont infirmes, on voit des gens qui sont mourants, on voit les autres qui passent et qui ne les voient pas. Maintenant, on est plus habitué, on voit la misère, même à Bourg. À Bourg, dans les grandes villes, à Paris, quand on va dans d'autres pays, on voit la misère, on voit sur les trottoirs des gens qui dorment, des gens qui on ne voyait pas ça du tout. Donc c'était une découverte. C'est possible de vivre à côté de gens complètement démunis et de rien dire et de rien faire.
Donc là c'était une prise de conscience, peut-on dire. Je crois même que vous avez une image forte du Gange.
Oui, parce que il y a les rues, il y a le grouillement et puis il y a le Gange. Alors peut-être que ça se fait encore maintenant ou pas. On voit les personnes qui sont décédées, les personnes qui sont mortes et qu'on met sur une espèce de treillis en bois qui flotte et les corps sont enflammés. Enfin, le bois est enflammé, donc les personnes meurent et se consument comme ça au fil de l'eau, alors que juste sur les rives. Les personnes se lavent, il me semble que des personnes boivent aussi l'eau, et tout est mélangé. Nous, on vit dans un pays très aseptisé, et donc ça paraît, voilà, c'est choquant, ça choque, ça marque.
Donc cette présence de la vie et la mort ensemble ?
C'est pas tellement la vie et la mort ensemble, c'est La mort, c'est, entre guillemets, c'est autre chose, c'est sale, c'est pas... Et on se lave pas en même temps que des corps se consument à côté. C'était plutôt ça.
Ah oui,
donc... Oui, parce que c'était, à cette époque-là, c'était pas dans des réflexions métaphysiques, en fait, de rapprochement de mort, de vie, j'étais pas là-dedans. J'étais
Vous étiez jeune. Dans ce choc, en fait.
J'étais dans quelque chose qui m'a impressionné, dans le sens qui a fait... Voilà, qui est resté impressionné dans la mémoire. Et quand on me demande des fois de me souvenir de quelque chose, je peux aller chercher ça. Ouais.
Et vous pensez qu'à partir de là, vous avez construit quelque chose ?
Ah ben, l'adolescence, c'est le moment où on se construit, où la pensée se construit. Donc oui, je pense que ma pensée s'est construite avec, on n'est pas tous pareils et il y a des gens qui sont vraiment très différents et très pauvres et on est à côté. Oui. Je pense que c'est ma pensée qui a commencé à se construire.
Et votre sensibilité ?
Et donc la sensibilité, bien sûr. Ouais.
Alors, vous m'avez dit il y a quelques instants que vous étiez dans une famille très ouverte, que vous êtes allé au cinéma comme... Vous le vouliez, comme vous le désiriez, et seul d'ailleurs, je crois, oui. Semble-t-il. Mm-hmm. Mais cette famille très ouverte avait quelques secrets ?
Alors, je pense que toutes les familles ont des secrets. Mais oui, ma famille avait plein de secrets parce que mais du côté de ma maman, il y a un certain nombre de personnes qui ont été déportées, qui n'en sont pas revenues. Et ça, ça fait partie d'un traumatisme familial, et pas que familial, hein, d'ailleurs communautaire, et même pas que, d'ailleurs. Et un traumatisme, ça ne se parle pas. D'autant plus qu'on n'était pas très loin. Là, on était dans les années 60.
Ouais, vous n'étiez pas très loin de l'événement.
On n'est pas loin. Et quand on voit, et maintenant rétrospectivement, je me dis, mais finalement, moi je suis née en 54. Donc je suis née 9 ans au moment où les gens ne sont pas revenus. Où on a, voilà. Donc c'est rien, 9 ans.
Et alors, vous avez vu un film ?
Oui.
Vous avez lu un livre, pardon.
Ah oui, alors... Oui, à peu près à cette même époque.
Oui.
Alors, comment ce livre m'est tombé dans les mains, je ne sais pas. Comment se fait-il qu'on me l'a laissé dans les mains, je ne sais pas non plus.
Vous ne l'avez pas acheté ?
Ah ben non, à cette époque-là, je n'achetais pas des livres.
Oui, donc il vous est tombé dans les mains.
Ouais, à cette époque-là, les ados n'achetaient pas des livres, en fait.
Oui, oui.
D'abord, je n'aurais pas eu d'argent pour ça. Et puis, oui, ce livre, c'est un livre qui s'appelle Treblinka, qui est un gros pavé et qui raconte, de ce que je m'en souviens, parce que je ne l'ai jamais repris dans les mains, mais qui raconte comment ça se passait, comment les gens étaient raflés, comment ils étaient emmenés, et puis quand ils arrivaient, et puis qu'après, voilà, la vie dans les camps. Et là, effectivement, là c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc parce que c'est hors de l'entendement. Un génocide, c'est hors de l'entendement d'une façon générale. Comment se fait-il que certains hommes puissent faire ça à d'autres hommes pour rien ?
Oui.
Ouais.
Est-ce que ça vous a conduit à en parler à vos parents ?
Non, non, non. Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai lu. Je sais d'ailleurs pas si j'ai été au bout de ce livre-là, qui est un pavé. Non, j'en ai pas parlé. Non. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment discuté de ça, de cette période. Non, on ne parlait pas de ça.
Donc, c'est un livre, en tous les cas, qui vous a permis de comprendre certains phénomènes qui s'est passé hors humanité, et en dehors également du cercle familial, qui était pourtant très impliqué là-dedans.
Oui, ben ça a fait un lien émotionnel très fort, parce que j'apprenais quelque chose, mais c'est pas comme avec le film précédent où ça m'a impressionné, où j'ai gardé les, voilà. Là, c'était très lié à la famille, à des pertes familiales dont on ne parlait pas. Voilà, c'est des choses qui ont été oui très très marquantes, mais là d'une façon je pense plus aussi psychologique, bien sûr.
Et qu'est-ce que ça a construit en vous ? Qu'est-ce que ça vous a enseigné ?
Alors, tout de suite, pas grand-chose. Après, avec l'âge, après la réflexion, ça m'a permis de faire des parallèles avec ce qui se passait. Ça m'a permis, je pense, d'avoir une...
Par exemple ?
Bon, ben, on va prendre un exemple actuel, mais ça fait un gros saut dans mon histoire et il y a eu d'autres choses dont je ne me souviens pas, mais je n'ai pas préparé vraiment. Mais effectivement, ça fait penser au génocide actuel avec le génocide palestinien, alors qui en plus... alors ça fait penser, c'est-à-dire que ça donne la pensée, c'est comment ça se construit,
oui.
Quel est le système, comment ça se fait que des gens mettent en place un système, voilà. Donc ça référence à ça, des gens qui sont capables de mettre un système en place pour tuer d'autres personnes, voilà. Donc et évidemment ça fait un écho très particulier par rapport à ce qui se passe. En Israël et d'une façon générale autour d'Israël, puisqu'il y a Gaza, mais il n'y a pas que Gaza, évidemment. Et actuellement, il y a le Liban, et actuellement, il y a la Cisjordanie. Comment est-ce que des gens sont capables... Alors, ils ont sûrement des raisons. Hein. Je pense que les nazis avaient sûrement des raisons objectives pour eux de mettre en place un système qui tue d'une façon systématique une population.
Oui, et parce qu'il y a un paradoxe actuellement, puisque cette population dont vous parlez en Israël est descendante de ceux qui ont subi.
C'est donc incompréhensible.
Oui.
C'est donc incompréhensible. Alors,
on ne va pas mettre toute la population. Enfin,
Bien sûr. C'est incompréhensible. Que des gens se laissent diriger par quelqu'un... qui n'est pas tout seul, hein, par une équipe qui est complètement fasciste, c'est incompréhensible. Il faut dire que, heureusement, il y a plein de personnes dans le monde qui sont descendants de la Shoah, maintenant à trois générations. Hein. On est la troisième génération, deuxième et troisième génération, qui sont complètement opposés et qui luttent contre, tant que c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, on le voit bien. Les gouvernements se laissent pas impressionner, mais il y a des tas de groupes de personnes d'origine juive de la diaspora qui sont en réaction par rapport à ça, évidemment. Évidemment.
Joël, les deux événements dont vous m'avez parlé vous ont construit concernant la diversité, peut-être la cruauté de ce monde, et vous ont donné une sensibilité vers la justice, sans doute.
Mm-hmm.
Est-ce que vous avez un espoir que ça change? Est-ce que vous, comment vous construisez par rapport à ça?
Alors, je crois que je suis déjà bien construite là,
oui,
à l'âge que j'ai.
Oui. Est-ce que vous avez un espoir?
Un espoir de par rapport à quoi? À l'homme avec un grand H?
Oui.
À l'homme individuel, oui, bien sûr. À l'homme en société, j'ai des doutes. J'ai des doutes.
Mais est-ce que ça vous a mis aussi dans une position de lutte, peut-être?
Alors effectivement, je suis issue d'une famille qui a toujours été une famille quand même, on dit, de gauche, voilà. Donc déjà ça donne une des valeurs de solidarité, des valeurs d'ouverture aux autres. Donc j'ai continué avec la formation que j'ai eue de par mes lectures, de par mes rencontres. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Voilà, donc aussi peut-être vous êtes plus tournée vers le collectif?
Alors, toujours. J'ai toujours été tournée vers le collectif, aussi bien dans l'aide à l'autre, puisque j'ai été éducatrice et enseignante après, mais enseignante en professionnel, c'est-à-dire que le côté relationnel et pédagogique a toujours été à la pointe dans ces lieux-là. Voilà, donc c'est des lieux où effectivement j'ai pu être à ma hauteur dans l'aide aux autres, oui.
Eh bien, c'est sur ce message d'aide, de fraternité et de combat qu'on se quitte.
Oui, fraternité, je ne sais pas. Combat, oui.
Fraternité, vous ne savez pas?
Non, je n'aime pas tellement ce terme de fraternité.
Qu'est-ce que vous préfériez comme terme?
Solidarité.
Solidarité.
Donc, ouverture, c'est... solidarité, oui. Ouais, plutôt.
Eh bien, c'est sur ces mots d'ouverture et de solidarité que nous terminons cette émission.
Eh bien, merci.
Merci, Joël.
Merci.
Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.